Europe 1,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bienfait pour vous, je suis ravie de vous retrouver depuis Roland-Garros dans votre magazine Bien-être. Et nous sommes avec vous du lundi au vendredi. Mais ce matin Mélanie, on va s'intéresser à quoi ?
Eh bien ce matin on va se poser cette question, comment prendre soin de notre peau en été ? C'est l'organe le plus grand de notre corps humain, alors ne le négligeons pas, particulièrement quand les rayonnements solaires peuvent le mettre à mal. On parlera bronzage bien sûr, parce qu'il n'est pas question d'abandonner le objectif teint allé, mais nous verrons comment l'atteindre en toute sécurité en fonction de notre type de peau à chacun. On vous expliquera tout cela avec nos deux invités. Nous recevrons ce matin Céline Mollet, journaliste pour le magazine Top Santé, notre partenaire sur ce dossier, ainsi que le docteur Estelle Charvet, elle est médecin dermatologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris.
Ensuite, à 11h45 comme tous les jours, ce sera notre séquence tendance avec notre duo de chroniqueurs. Avec Perrine Bramy aujourd'hui, on va jouer un petit peu puisqu'elle nous propose un quiz pour tester nos connaissances sur les questions d'environnement. On va voir si on est paré pour vraiment protéger la planète comme il se doit. Et puis, il y aura aussi la chronique Évasion de Gavins Clément-Terruiz. Ce matin, direction la ville de Bordeaux. Gavins nous a concocté un petit programme pour un city trip débordant de découvertes touristiques. Et bien voilà, bien fait pour vous, c'est tout de suite.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes bien sur Europe 1, bienvenue dans votre émission Bien-être Feel Good. Nous sommes à Roland-Garros, c'est notre question du jour, elle nous concerne tous avec l'arrivée des beaux jours, petits ou grands. Comment prendre soin de notre peau en été ? Car vous ne le savez peut-être pas, mais en été, pour plusieurs raisons que nous détaillerons dans un instant, cette peau va avoir besoin de soins particuliers, et notamment notre enveloppe cutanée. On va détailler tout ça dans quelques minutes avec nos invités, mais on va, comme tous les jours, commencer par interroger le roi du gommage. Des masques à l'argile et de l'indice 50. Bonjour Clément Lanoux.
Bonjour tout le monde, je vois qu'on peut rien vous cacher. J'ouvre mon propre cabinet d'ailleurs dans une semaine, je vous referai la publicité. Juste avant, je vais faire ma mission chaque jour, je pars avec un micro et j'essaye de répondre avant vous à la question du jour. Comment prendre soin de sa peau ? Aujourd'hui, j'ai fait appel à des professionnels de la peau. Comment on appelle ça, les professionnels de la peau ?
Des polologues ?
Et non, des adolescents.
Oula, j'avoue, moi je fais pas trop attention à moi et tout, je suis pas dans ça, mais... Je sais pas, des trucs qui hydratent et tout.
Moi, je mets de la crème pour les boutons.
Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai eu comme réponse. On va pousser un petit peu plus loin. Bien sûr, il y a d'autres solutions. Vous pouvez écouter l'émission. Mais sinon, comment faire pour connaître bien sa peau ?
Ne pas mettre beaucoup de produits comme le font les youtubeuses ou les pseudo-influenceuses à mettre 46 crèmes. Là, c'est pas tout le monde qui a besoin de ça.
Ouais, voilà. YouTube, c'est maintenant le médecin des jeunes. Il faut aussi prendre soin de sa peau et de ses lèvres.
Ouais, du baume à lèvres. Moi, je sais que j'ai les lèvres très sèches. Du coup, toujours un baume à lèvres avec soi pendant les vacances, surtout qu'il fait chaud. Les lèvres, elles s'assèchent rapidement. Ne pas mouiller ses lèvres avec sa salive, parce que sinon, elles s'assèchent encore plus rapidement.
Voilà, tout ce que j'ai appris dans la rue, un vrai spécialiste. Il ne faut pas faire ça, justement, mettre sa langue comme ça sur sa bouche. Ça ne sert à rien, apparemment, directement. Alors, la question que j'ai posée, alors là, on est à Roland-Garros, mais peut-être que vous, dans votre jardin, vous avez aussi cette grande problématique. L'été, est-ce que vous êtes plutôt team soleil ou team rester à l'ombre ? Qu'est-ce que vous avez choisi ?
Des fois, j'aime pas le soleil et des fois, au soleil.
Voilà,
c'est bien
reportage
très
intéressant.
C'est très clair.
Heureusement.
C'est fouillé, hein, c'est creusé aujourd'hui, je
trouve.
C'est
dingue. Et donc, vraiment, on a des avis très tranchés, des gens qui maîtrisent le soleil, justement, et qui ont des conseils pour vous.
Alors moi, je suis pleine de tâches, à commencer par la supérieure. Donc je pense que c'est cramé que je me mets au soleil.
Ouais, moi je joue tout sur le bronzage. Même quand je meurs de chaud, je reste au soleil. C'est que pour bronzer.
Moi, j'aime beaucoup le soleil. J'aime beaucoup quand le soleil me tape au visage. J'aime beaucoup.
Voilà, vous avez compris aujourd'hui, en fait, le problème, c'est quand on fait des micro-trottoirs dans les allées de Roland-Garros, quand on parle... pas tennis, les gens s'en fichent.
J'ai rien à dire.
Absolument rien à dire. Heureusement, il y a des professionnels qui arrivent, on va pouvoir parler de la peau.
Merci beaucoup Clément, on va maintenant se tourner vers nos vraies expertes du jour. Je commence par vous, docteur Estelle Charvet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin dermatologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Avec nous en studio également, Céline Mollet, bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors vous êtes journaliste pour le magazine Top Santé, notre partenaire aujourd'hui pour ce dossier. Céline, ce que l'on apprend déjà dans votre dernier numéro, c'est que la peau n'a pas seulement besoin d'être chouchouté donc en hiver à cause du froid, mais aussi l'été parce que donc la chaleur et le soleil font des dégâts sur la peau. Est-ce que vous nous précisez un peu ces dégâts justement ?
Oui, à chaque saison, ses bénéfices et ses désagréments. Durant l'été, la chaleur favorise la transpiration et donc une déshydratation. Mais c'est surtout du soleil dont il faut se méfier. Il peut provoquer des coups de soleil, conséquence immédiate de l'exposition, mais à long terme, il est responsable du vieillissement et des cancers. dont le nombre ne cesse d'augmenter chaque année.
Oui, rien de neuf sous le soleil, comme on dit, mais la mode, c'était pas le cas il y a quelques années, mais ça y est, elle est revenue au bronzage. Il faut pas oublier qu'à chaque fois, docteur, le bronzage, c'est une brûlure, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. Le bronzage, c'est une brûlure. On voit très rapidement les premiers signes de brûlure, c'est l'érythème. En fait, la rougeur cutanée, c'est déjà en fait une exposition trop importante au soleil et déjà en fait une petite brûlure à minima.
Mais si on n'est pas passé par le côté rouge et qu'on est direct bronzé, on n'a pas brûlé.
Tout à fait.
C'est votre cas, Julia. Je suis sûre que vous vous bronzez bien. Non,
non, oui, je bronze bien, mais il arrive que ça devienne rouge et effectivement, là, on sent la brûlure. Mais parfois, on peut passer du cap blanc à foncé sans l'étape brûlure.
On peut passer sans l'étape brûlure, bien sûr, si jamais l'exposition était raisonnée et bien protégée.
Est-ce qu'on le sait, hein, on ne bronze pas pareil partout. Ici, à Roland-Garros, ça tape fort certains jours. Mais ça dépend où on est en France, dans le monde, on est d'accord. C'est encore plus important vraiment de mettre de la crème quand on est très exposé sur une tribune ici à Roland-Garros ou plus sur la plage, par exemple.
Tout à fait, vous avez complètement raison. Le fait que le soleil reflète sur le sable ou bien sur l'eau, ça amplifie énormément les rayons du soleil. Et ça nécessite une précaution supplémentaire avec des indices de protection plus importants.
Sur la terre battue, ça va, ça réfléchit pas trop.
Ça réfléchit quand même.
Ça réfléchit quand même pas mal. Mais alors justement, et là, certains vont attraper des coups de soleil malgré toutes nos mises en garde. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller une fois que la brûlure est là? Comment on soigne ces coups de soleil?
Bon, alors une fois que la brûlure est là et que le mal est fait, ce qu'il faut, c'est évidemment hydrater le plus possible avec des crèmes le plus gras possible, en fait.
Oui, comment ça s'appelle, là, les crèmes, Mélanie?
Il y a de la biafine,
oui,
que vous pouvez appliquer. Beaucoup de patients aiment beaucoup l'aloe vera, qu'on peut aussi conseiller. C'est toutes les crèmes extrêmement grasses, les pommades.
Céline, puisque vous nous conseillez de ne pas nous exposer donc directement au soleil, on doit y aller par palier, je crois. Comment on s'y prend concrètement?
Bien sûr, on est resté à l'intérieur pendant tout l'hiver. On ne va pas se mettre sous les UV comme ça pendant 8 heures. Donc l'idéal, c'est de s'exposer progressivement, 30 minutes par jour quand on peut, quand on déjeune en terrasse, avant les vacances, toujours avec une protection solaire. Et arrivé en vacances, c'est la même chose. On ne se met pas 8 heures d'affilée sur un transat.
Ouais, c'est ça.
C'est comme le sport, il faut y aller mollo.
Tout à fait mollo. Alors moi, j'ai une question, docteur, là, qui me taraude depuis un certain nombre d'années. Est-ce que ces compléments alimentaires que l'on voit en pharmacie pour soi-disant préparer au bronzage, ça marche?
Je suis sûre que vous en prenez de ces petites...
Évidemment, j'en ai pris. J'ai laissé beaucoup d'argent au laboratoire.
Est-ce que
j'ai
bien carottes, fait là, hein,
ouais. Ouais, il faut faire attention à ça, justement. Il y a des vraies maladies qui existent. Et la lucite estivale bénigne, qui est une vraie pathologie cutanée qui arrive à beaucoup de femmes à l'été. C'est des petites lésions qui ressemblent un peu à de l'eczéma ou de l'urticaire. Et ça, le bêta-carotène en complément, on sait que ça marche 15 jours avant commencer à s'exposer. Mais c'est pour une pathologie. Sinon, pour préparer sa peau au soleil, il n'y a pas de preuve formelle que ces compléments alimentaires y marchent.
D'accord. Et certains vont faire des séances du...
Oui, j'allais
dans les cabines pour préparer. Les cabines à cancer, comme je dis parfois.
Alors maintenant, les UV, grâce aux sociétés savantes de dermatologie, elles ont été interdites. Donc on ne fait plus d'UV en préventif et ça, nous, on le déconseille.
Et pourquoi ça existe alors si c'est interdit?
Alors, ça existait avant à visée cosmétologique. Mmh. Maintenant, nous, on ne peut en faire dans certaines pathologies médicales, mais c'est des UV qui sont encadrés pour l'eczéma, le psoriasis, par exemple.
Donc, on ne va jamais dans les centres de bronzage?
Non, on vous déconseille.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
De retour dans Bienfait pour vous, nous sommes à Roland-Garros pour le tournoi. C'est votre émission Feel Good, Mieux Vivre. Ce matin, on se pose cette question: comment prendre soin de notre peau en été? Pour en parler, elles sont toujours avec nous, le docteur Estelle Charvet, médecin dermatologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris, et puis avec nous également en studio, Céline Mollet, journaliste pour le magazine Top Santé, notre partenaire aujourd'hui pour ce dossier. Alors docteur Charvet, justement pour bronzer en toute sécurité, parce qu'on n'a quand même pas envie de s'en priver du petit teint allé qui va bien. Évidemment, il y a la crème solaire, hein, c'est le passage obligé. Mais comment la choisir? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une jungle, que ce soit en pharmacie, dans les supermarchés, il y en a des tas. Comment je sais laquelle est bonne pour moi? J'imagine que c'est peut-être pas la même que Julia, qui est très mate.
On a des peaux très différentes, voilà, avec Mélanie, par exemple.
Oui, alors ce qu'il faut pouvoir identifier avant de choisir sa crème solaire, c'est ce qu'on appelle le phototype. C'est la capacité de prendre un coup de soleil. Donc ça, il y en a de 1 à 6.
J'imagine que je suis plutôt 1.
Peut-être pas. pas. Un, c'est quand on bronze pas du tout.
Je passe par la case rouge et puis re-blanc.
Alors, ça peut-être que vous êtes phototype 1, c'est possible. En fait, en fonction de son phototype, plus on est phototype bas, 1, 2, 3, plus on a besoin d'une photoprotection importante. Et à ce moment-là, on conseille des indices de photoprotection entre 30 et 50. Mm-hmm. Et ensuite, quand on a la peau plus mate ou noire, on peut se permettre d'avoir une crème solaire plus, avec un indice de photoprotection un peu plus bas.
Ah, mais déjà, donc vous nous dites que le 50 sur le visage, c'est pas obligatoire comme indice.
C'est pas obligatoire. Après, en France, on est beaucoup de phototypes bas, donc on a plutôt tendance à conseiller.
Mais est-ce qu'on bronze quand même quand on met un écran total? Je sais pas, si on reste sous un parasol à la terrasse d'un restaurant, c'est vraiment nécessaire aussi là de mettre de la crème?
On conseille parce que ça ne protège pas complètement de tous les UV. Donc on conseille quand même de le mettre, même si effectivement la meilleure photoprotection, c'est de se cacher du soleil.
Bien sûr. Bon. Céline, vous parlez dans le magazine de quelque chose qu'on redoute tous, et d'ailleurs il y en avait un exemple tout à l'heure dans le reportage de Clément Lannou, je parle des taches brunes liées au soleil. Quand elles apparaissent, c'est forcément qu'on a abusé, ou est-ce que c'est parce que j'ai un type de peau particulier? Pourquoi elles sortent, ces taches?
Alors, si vous avez des taches brunes, c'est effectivement souvent que vous avez abusé du soleil, que vous avez eu des expositions prolongées et répétées. Ça peut être aussi un petit bouton que vous avez tripoté et puis après vous êtes exposé au soleil et cette inflammation a provoqué une tache brune. C'est bien pour ça qu'on vous dit de ne pas toucher à vos boutons.
Ou alors ça peut être la grossesse aussi, parce que je crois que c'est le fameux mélasma, le masque de grossesse. Là, c'est pas parce que j'ai abusé un simple petit rayon, enfin je veux dire une petite demi-heure même sans un soleil de plomb, enceinte, ça peut faire des dégâts.
Tout à fait, le mélasma, ça apparaît vraiment pendant la grossesse en grande majorité, et un des conseils qu'on donne à toutes les femmes, c'est justement par contre l'écran total sur le visage en prévention. Absolue, parce que le mélasma, c'est très difficile à traiter.
Oui.
Donc on préfère
prévenir.
Quand
on est enceinte, indice 50, oui, obligatoire. Et qu'est-ce qu'on fait une fois que c'est là pour retirer les taches brunes? Est-ce que par exemple les crèmes anti-taches, ça peut fonctionner?
Il y a quelques crèmes anti-taches avec de l'hydroquinone qui fonctionnent, donc on peut prescrire nous ou qu'on peut trouver en pharmacie. Sinon, un des autres traitements possibles en dermatologie esthétique, c'est le laser.
Mais ça marche bien, ça?
Certains types de laser marchent bien, oui, sur les lentigos, les petites taches que vous voyez.
Ça va aller brûler la tache, en fait, c'est ça?
Ça va dépigmenter.
Mais il n'y a pas de blessure, je veux dire, je ne vais pas avoir une cicatrice à cause du laser, hein,
non,
c'est ça?
Non, si le laser est fait correctement par un dermatologue qui sait faire.
Ça fait mal ou pas, hein?
Ça irrite un peu, mais c'est pas douloureux.
Ça, c'est les médecins qui disent ça, mais ils l'ont jamais fait sur eux. Bon, on parle toujours des UVA, des UVB, Céline. Je crois qu'il faudrait aussi se protéger, c'est plus étonnant, de la lumière bleue. Et il faut savoir qu'on la trouve pas que dans nos écrans, contrairement à ce qu'on imagine.
Tout à fait. En fait, la lumière bleue, elle est présente aussi dans le rayonnement solaire. Pour info, une heure de soleil, c'est 64 heures d'écran. Voilà, le soleil, c'est beaucoup plus dangereux. La lumière bleue, elle provoque un vieillissement prématuré et aussi des taches brunes.
D'accord, mais comment on peut s'en protéger alors au quotidien de cette lumière bleue, Céline?
Alors, il faut utiliser des crèmes solaires à large spectre qui protègent des UVA, des UVB et de la lumière bleue.
Et donc ça, c'est écrit, j'imagine que toutes les crèmes le font pas. Il faut bien regarder.
Exactement.
Soit sur la notice, soit sur l'emballage, effectivement.
Exactement.
Docteur Charvet, pendant les vacances, le soleil, ceux qui ont des boutons, en général, ceux qui ont de l'acné, je veux dire, ils sont souvent plus ou moins tranquilles. On se rappelle de l'adolescence, pendant l'été, c'était génial. Pour eux, pourtant, il faut faire attention avec cette période d'accalmie, entre guillemets, transitoire au moment du soleil, parce que c'est plutôt, faut le savoir, une bombe à retardement.
Exactement, une bombe à retardement. Le soleil, on l'utilise beaucoup, nous, en dermatologie, pour nos pathologies inflammatoires, l'eczéma, le psoriasis. Et donc l'acné, en fait, ça marche aussi, puisque c'est anti-inflammatoire et que l'acné, c'est une dermatose inflammatoire. Mais par contre, en fait, se cache derrière l'inflammation des microkystes qui sont plus en profondeur. Et donc, dès qu'on n'est plus exposé au soleil, tout explose.
Ça revient de plus belle?
Ça revient de plus belle.
Mais comment je fais, moi, si mon fils, il a un traitement anti-acné, je l'arrête pendant l'été? Parce que je crois que c'est pas bien de combiner ça avec le soleil.
Alors, il y a deux types de traitements pour l'acné. Il y a des traitements par la bouche et il y a des traitements au niveau application topique. Et effectivement, il y en a qui sont photosensibilisants ou irritants. Donc, on conseille plutôt de les mettre le soir et le matin de se laver le visage avec un savon.
Donc, on n'arrête pas pour autant le traitement en été pour nos ados, quoi.
On n'est pas obligé, mais il faut pas s'exposer si on a mis la crème. Ça, c'est important.
Et attention donc à la poussée bourgeonnement de septembre.
Exactement,
en général.
Pour la rentrée. Ouais,
le revers de la médaille. Justement, les peaux, Céline, qui ont une tendance grasse, on va dire, tendance acnéique, les experts leur conseillent d'utiliser des crèmes solaires différentes des autres ou pas?
Bien sûr, il y a des crèmes solaires pour tout type de peau. Donc on va utiliser une crème solaire pour peau grasse qui va être à la texture plus fluide, qui va réguler le sébum et qui en plus va avoir une petite action sur le traitement des boutons.
Ouais, donc vaut mieux prendre une crème vraiment ciblant ce type de problème.
Hein. On a une question pour vous, Céline, de Samira sur Insta. Elle vous demande, est-ce qu'on peut être allergique à la crème solaire ? J'ai eu plein de petits boutons l'an dernier avec la nouvelle que j'avais achetée. C'est possible,
alors,
ça ?
On peut être allergique à un ingrédient de la crème solaire. On n'est pas allergique à toutes les crèmes solaires. Donc, dans ce cas-là, il faut arrêter cette crème-là et essayer une autre crème. On peut être allergique à un parfum, à un filtre. Mais surtout, ne pas faire l'impasse sur la crème solaire en pensant qu'on est allergique à toutes les crèmes solaires.
Docteur Charvet, on a Gabriella sur Instagram qui nous demande, suite à ce que vous disiez tout à l'heure sur les lasers et sur les taches brunes, combien de séances il faut justement pour se débarrasser d'une grosse tache sur le visage, en moyenne, on va dire.
En moyenne, il en faudra au moins 3. Après, c'est vraiment à réévaluer. L'efficacité, on la voit assez facilement.
Et elle a une double question puisqu'elle demande si on peut faire ça en été, justement, les traitements au laser.
Il vaut mieux éviter l'été. Hein,
là, c'est pas la période. Hein. Enfin, on est presque en été.
Mais... Ouais, là, ça commence à devenir un peu trop tard.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. Au soleil, exposer
un peu plus au soleil. Quand c'est Jennifer, la chanteuse Jennifer, Julia.
Au soleil, mais point trop n'en faut.
Oui, point trop n'en faut, pas de Jennifer, du soleil évidemment. Vous écoutez Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On est à Roland-Garros et justement, on se pose cette question, comment prendre soin de notre peau en été et si on regarde un match sur les gradins. C'est notre sujet aujourd'hui. Pour y réfléchir et surtout nous conseiller, elles sont toujours avec nous en studio. Céline Mollet, journaliste pour le magazine Top Santé, notre partenaire aujourd'hui pour ce dossier, ainsi que le docteur Estelle Charvet, médecin dermatologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Alors docteur, un truc auquel on ne pense pas forcément en été, c'est le risque en fait pour la peau si on sort d'une opération par exemple. Je crois que les UV et les cicatrices, franchement ça fait pas bon ménage du tout. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer pourquoi ?
Oui, tout à fait. Alors c'est important déjà d'expliquer à nos patients qu'une cicatrice, elle met 2 ans à peu près avant de prendre sa forme définitive. On est post-chirurgical ou post-exérèse, dans un état inflammatoire très important.
Exérèse, je précise juste, c'est quand on a par exemple enlevé un grain de beauté.
On enlève quelque chose,
voilà,
sur le visage. Ça veut dire ablation.
Ablation, exérèse, voilà.
Et donc, l'irritation, l'inflammation avec le soleil, ça pigmente beaucoup plus et ça crée des cicatrices qui sont plus dysesthétiques.
Ça veut dire que les tatouages, on ne les fait pas avant l'été ?
Les tatouages, il vaut mieux éviter de les faire avant l'été, oui, parce que sinon, vous avez un tatouage qui va être différent d'un tatouage d'hiver.
Là, vous avez dit donc une cicatrice, ça met en moyenne 2 ans à atteindre sa forme définitive. Mais justement, est-ce qu'il faut se méfier de toutes les cicatrices si on a, je ne sais pas, une très grosse cicatrice de qui a 30 ans, qui est un peu âgée mais qui est toujours présente et qui est apparente. Est-ce que celle-là aussi, il faut la protéger davantage que le reste de la peau du soleil ?
Il faudra la protéger de façon normale, comme le reste de la peau. Une fois qu'elle a 30 ans, on a vraiment des cicatrices qui sont fixes.
En revanche, si j'ai donc une cicatrice qui a moins de 2 ans, là, qu'est-ce que je mets de part ? Je mets une grosse couche. On voit des fois des gens avec des taches à des endroits de crème qui n'ont pas été vraiment absorbées. C'est ça qu'il faut faire ?
C'est quoi cette crème d'ailleurs ?
Il y a différents types de crèmes. Donc on peut conseiller de mettre de la crème solaire. Après, il existe des sticks qu'on aime beaucoup mettre en chirurgie ou en dermato qui sont avec de l'écran total qu'on peut laisser complètement sur la cicatrice. Vous voyez cet aspect un peu blanc que vous laissez sur la cicatrice pour pas que ça pigmente.
Il y en a même des colorés aujourd'hui qui existent, je crois. J'en ai vu des violettes pour les enfants, des bleus.
C'est marrant,
ça. Benjamin Lévesque nous en avait présenté, vous
rappelez
pas,
oui, dans une chronique beauté.
C'était marrant. Si on veut jouer un petit look dalmatien avec des
couleurs,
oui, ça peut être sympa.
Alors Céline Mollet, vous conseillez aussi dans le magazine de faire attention aux ingrédients photosensibilisants, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on ne doit pas mettre sur son visage l'été, par exemple ?
Tout à fait. Alors, ingrédients photosensibilisants, ce sont des ingrédients qui peuvent provoquer des réactions au contact des UV. Les plus connus, ce sont les huiles essentielles. Donc ça, il faut vraiment éviter. Après, il y a certains médicaments. Mais moi, je conseille vraiment de mettre le moins de choses possible quand on s'expose au soleil. Donc une crème solaire, puisqu'elle est faite pour ça. Le reste, on évite.
Le parfum aussi, j'avais entendu dire que parfois, le parfum faisait des taches. C'est vrai.
C'est très classique que les patientes, c'est surtout des patientes qui viennent avec un décolleté très inflammatoire. Et en fait, on se rend compte qu'elles ont mis du parfum. Et on ne se rend peut-être pas compte, mais nous, on voit beaucoup de patients qui s'appliquent des choses parfois très étonnantes. Sur
genre quoi ?
De l'huile d'olive, du citron. Le citron, c'est très photosensibilisant. Mais ça fait des goulinures très pigmenté, assez dysesthétique aussi.
Quelle idée !
C'est bizarre,
Il y a des patients qui appliquent du safran, de l'oignon, de l'ail.
Excusez-moi, de l'oignon, je vois pas pourquoi faire.
Non, mais il faut faire attention aussi.
Les remèdes de grand-mère.
Oui. Il faut faire attention.
On déconseille.
Quand on cuisine, si on se lave pas les mains derrière, on a découpé une orange, on peut avoir des taches à côté.
Bien sûr, mais surtout si on se gratte le visage. Alors là, c'est la catastrophe.
C'est les petits-enfants qui mangent du pané aussi, autour de la bouche. C'est extrêmement photosensibilisant.
Bon, donc on fait attention. Alors on va s'arrêter un instant, si vous voulez
bien sur une pathologie de la peau qui peut être vraiment très enquiquinante, c'est l'eczéma. Demain sera d'ailleurs la journée nationale contre cette maladie qui touche, je crois, de plus en plus de Français. C'est bien ça, docteur ?
Tout à fait. Il y a à peu près 2,5 millions de Français qui ont de l'eczéma dans leur vie. Donc c'est quand même extrêmement fréquent.
Et on dit que c'est en augmentation, mais pourquoi ? Comment on explique ça, qu'il y a de plus en plus de patients qui ont de l'eczéma ?
Probablement avec l'environnement de plus en plus pollué et peut-être le dépistage aussi. Les gens connaissent de mieux en mieux grâce à la journée de l'eczéma. Donc ils viennent de plus en plus consulter.
Est-ce que c'est pas peut-être aussi lié aux allergies ? On sait que les allergiques sont de plus en plus nombreux eux aussi. Est-ce que c'est lié ? Parce que l'eczéma parfois c'est d'origine allergique.
Tout à fait. Il y a plusieurs types d'eczéma. Vous avez complètement raison. On parlait tout à l'heure de la photosensibilisation, mais il y a l'eczéma allergique qui existe et l'eczéma atopique, c'est l'eczéma des patients allergiques. Mmh. Effectivement, l'augmentation des allergies. Et parallèle à l'eczéma atopique.
C'est pour ça qu'on est de plus en plus à avoir d'eczéma. Docteur Charvet, le slogan de la campagne justement cette année, c'est « Arrête de te gratter ». Enfin, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire parce qu'on le sait pas forcément. Mais effectivement, l'eczéma, c'est parfois incontrôlable. Alors pourquoi on se gratte autant ?
Pourquoi on se gratte ? L'eczéma, c'est une maladie inflammatoire avec énormément d'irritation. Il y a deux problèmes à l'eczéma. Il y a la peau qui peut être atopique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, allergique, qui est beaucoup trop sèche. On parle de xérose, nous. Donc la peau est faite ainsi et les patients sont faits ainsi, avec un état cutané trop sec.
Mais alors, normalement, quand on hydrate, ça va mieux, c'est bien ça ?
Tout à fait. Ça fait partie des moyens thérapeutiques qu'on conseille aux patients de s'hydrater tous les jours, toute la vie.
Et quand on s'hydrate tous les jours, toute la vie, on se gratte moins ?
On se gratte beaucoup moins, tout à fait. Ça, c'est prouvé dans les études.
Docteur Charvet, d'un point de vue esthétique, l'hiver, on peut les cacher, les plaques d'eczéma. L'été, mais on se découvre, les vêtements sont plus légers, donc c'est plus compliqué. Ça peut avoir, je crois, il faut le rappeler, c'est important, un impact psychologique très lourd sur les patients. De quel ordre, par exemple ?
Tout à fait. Il y a des patients qui sont en arrêt maladie, au long cours. On a parfois, à Saint-Louis, quelques patients qui sont hospitalisés pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et aussi, ce qu'il faut rappeler, c'est que les patients dorment très mal. Alors parfois, ils s'en rendent même plus compte. C'est quand on leur pose la question, qui se rendent compte qu'ils dorment mal, mais évidemment après ils sont plus sur les nerfs et c'est un peu un cercle infernal.
Et vous leur donnez quoi, des anti-grattages,
anti-gratouilles ?
On peut essayer de leur donner des antihistaminiques qui marchent à minima. C'est pas le meilleur traitement contre les démangeaisons, mais le traitement c'est vraiment les traitements par émollient pour prévenir, donc les crèmes hydratantes que vous avez en pharmacie, et évidemment les crèmes à base de corticoïdes, les dermocorticoïdes.
Et est-ce qu'on peut se dire que éventuellement le soleil, ça peut peut-être apaiser certaines une crise d'eczéma, c'est à vous docteur que je m'adresse, est-ce que vous conseillez par exemple à vos patients de s'exposer au soleil du coup ou pas ? On entend tout et rien, on ne sait pas.
Oui, c'est pas facile de trouver la bonne balance, mais oui, bien sûr, on leur conseille de se consoler
aussi, hein, on se console bien, c'est un gros lapsus.
On leur conseille de s'exposer au soleil.
Avec une protection toujours.
Avec une protection.
Pourquoi ? Parce que ça peut diminuer considérablement l'eczéma.
Tout à fait, c'est un type de traitement, on peut traiter les patients en faisant des UV avec des cabines mais qui sont médicales, et par contre, avec le soleil, c'est anti-inflammatoire, donc c'est un traitement.
Mais est-ce que c'est comme l'acné, une fois qu'on arrête l'exposition, ça revient ou pas ?
Ça peut revenir parce que c'est une pathologie chronique, mais l'idée c'est de mettre des petites doses pour pouvoir traiter au long cours.
Céline Mollet, on a une question pour vous de Bruno près d'Agen sur Facebook. Il vous demande quelle est la différence, donc vous parliez des crèmes tout à l'heure, des indices, quelle est la différence entre un SPF 30 et un SPF 50 ? Il dit, j'ai la peau ni blanche ni mate, comment choisir ?
Alors, avec un SPF 30... vous multipliez par 30 le risque d'avoir une rougeur sur la peau. C'est-à-dire si votre peau met 10 minutes à rougir en temps normal, avec un SPF 30, elle mettra 300 minutes. Mais ça, c'est si elle est bien appliquée et en quantité suffisante. Avec un SPF 50, vous multipliez par 50 ce risque.
Donc ça veut dire que si on met de la SFP 30, il faut renouveler plus souvent l'application de cette crème pour être protégé ?
Non, parce que vous allez choisir en fonction de votre phototype. Mm-hmm. Mais par contre, toutes les crèmes solaires doivent être réappliquées toutes les deux heures et après chaque baignade.
C'est là
après,
où on ne fait pas toujours tout.
Ouais, hein, et moi, je les applique avant la baignade. Docteur, ce n'est pas une bonne idée ?
Avoir la baignade, c'est une mauvaise idée parce que vous allez en fait perdre votre crème solaire après la baignade. Mais si vous le remettez après, finalement, c'est pas très grave.
Moi, je vous avoue qu'avec les enfants, j'ai un peu lâché l'affaire, hein, surtout les petits. Du coup, j'ai acheté des vêtements solaires, vous voyez, contre le soleil. Est-ce que c'est bien ? Du coup, on peut se passer de la crème, en tout cas sur la partie qui est couverte ?
Oui, alors c'est la meilleure photo.
C'est idéal, hein, parce qu'ils n'ont pas envie qu'on les tartine.
Hein. Ouais, l'idéal, c'est vraiment les vêtements.
Ah bon, vraiment, là, les petits maillots de bain qui couvrent tout, quasiment tout le corps?
C'est vraiment ça l'idéal, ça reflète le plus possible les UV, et après vous mettez de la crème, vous complétez en mettant de la crème, l'écran total sur le reste du corps.
Et d'ailleurs, on va rappeler, hein, puisque les beaux jours vraiment sont là, approchent en tout cas, l'été est bientôt là, pour nos enfants, c'est vraiment eux qu'il faut protéger un maximum, bien parce sûr. Que les coups de soleil pris dans l'enfance, ben, on le payera peut-être à l'âge adulte, hein, c'est ça?
On le voit, hein, facilement sur des patients parfois qui sont jeunes et qui ont toutes les petites taches solaires dont on parlait tout à l'heure, c'est que le capital solaire a déjà été
bien entamé.
Et en fait, ce sont des carcinomes qui vont arriver dans les années à venir. Et ça, on ne peut pas rattraper le mal qui est
fait. Et puis là, on a parlé des choses très douloureuses, hein, comme les risques de cancer. Mais il y a des choses peut-être un peu moins graves, mais qui sont gênantes. Je pense aux rides.
Ah, ça ne m'étonne pas que ça vous intéresse.
Est-ce que c'est vrai qu'on est plus ridé si on s'expose et qu'on ne fait pas attention?
Bien sûr, la meilleure crème anti-âge, c'est la crème solaire. La meilleure.
Vous avez vu, ça ne sert à rien d'acheter 10 000 produits anti-rides.
Mais
tout ça.
Je peux quand même m'exposer. Je peux continuer à m'exposer. Je ne fais pas comme Madonna qui met des espèces de casquettes de partout. On est d'accord.
On peut continuer à s'exposer dans la mesure du raisonnable. Mais c'est vraiment indispensable pour éviter les rides.
Très bien. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu à nos questions. Pour davantage d'infos, je vous invite à consulter le dernier numéro de Top Santé, le magazine Top Santé qui est déjà dans tous les bons kiosques. Et puis, je vous rappelle, demain, c'est la journée nationale de l'eczéma avec notamment une matinée de conférences virtuelles avec des médecins, des patients témoins, des actions dans 7 villes de France. Tout est gratuit. Il suffit de vous inscrire via le site associationeczéma.fr.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1, de retour dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être. C'est tous les matins de 11h à midi. Nous sommes à Roland-Garros aujourd'hui. Europe 1 est la radio officielle. Et donc à présent, on va lancer comme tous les jours notre partie tendance. Dans le studio, il y a déjà Gavin Clémenté-Ruiz qui est avec nous. Bonjour Gavin.
Bonjour à vous, bonjour à tous.
Quelle sera l'escapade du jour alors?
Eh bien, on va partir à Bordeaux. Un city trip, c'est parfait pour 2-3 jours si vous avez envie. C'est vraiment agréable. C'est une grande ville avec on peut tout faire à pied.
Vous avez envie, Julien? Ah ouais, ça m'a toujours donné envie, je ne connais pas très bien Bordeaux.
Et je vous ai pris un ticket pour le tram, il y aura tout ce qu'il faut.
Ah, j'ai hâte de découvrir ça. Reste avec nous Gavin, car pour le moment c'est Perrine Bramy qu'on va écouter. Bonjour Perrine.
Bonjour.
Alors aujourd'hui dans votre chronique écologie développement durable, vous avez décidé de nous lancer un petit défi je crois.
Oui, parce que ce dimanche c'est la journée mondiale de l'environnement organisée par les Nations Unies. Je me suis dit que ce serait l'occasion rêvée pour tester nos connaissances et vos connaissances en particulier en la matière. Un petit quiz pour vous challenger et savoir qui est la meilleure d'entre vous en écologie. Alors, cop ou pas cop?
Cop.
On y va. Cop. Question numéro...
Gavin, vous jouez aussi. Hein.
Ouais, elle a tout noté, attendez.
Vous avez les réponses.
Gavin va tenir
les scores. C'est moi qui tiens les scores. Okay, on y va.
Alors, première question, quel est l'animal qui pollue le plus? Petit A, le chien. Petit B, la vache. Petit C, le hérisson.
Le hérisson. Ah bon?
Moi, j'aurais dit la vache.
Ouais. Vache, et oui, bonne réponse. Hey, hey. Un point pour Mélanie, un point pour Gavin, la vache. Parce que lorsqu'elle digère... Julia fait la tête. Elle relâche du méthane quand elle digère la vache. Elle rote du méthane même.
Et le hérisson, pas du tout, quand il digère.
Non, le hérisson est super.
Je crois que c'est même super d'avoir un hérisson dans son jardin, ça, pour la biodiversité.
Parce qu'au total, une vache, eh bien, elle émet en moyenne 150 kilos de méthane par an. Ça pollue le méthane 25 fois plus que le CO2. Donc vraiment, c'est pas du tout une bonne idée.
Mais on va pas les zigouiller non plus les vaches.
Non, évidemment.
Qu'est-ce qu'on va faire alors?
La solution, c'est Julia, si un jour vous décidiez d'avoir des vaches, ce serait de changer leur alimentation. Hein, pour mettre des graines de lin, ça polluerait beaucoup moins. Et puis, on a aussi la solution de moins manger de viande, hein, tout simplement.
Ça, c'est vrai. Il n'y a pas une autre question? On a gagné, Mélanie, ou...
Non, il y a encore des questions. Deuxième question, qu'est-ce qui est pire? Envoyer une lettre ou envoyer un email?
Un email. Vous nous l'avez expliqué, Perrine.
Bravo, Julia, vous avez bien suivi, mais ça dépend de quelle lettre et ça dépend de quel email. Si c'est une lettre sur papier recyclé, qu'on écrit à la main, ou bien si on l'imprime sur un ordinateur, c'est pas pareil. Si c'est un email avec aucune pièce jointe à l'intérieur, eh ben, c'est mieux si vous l'envoyez à l'autre bout du monde. Par contre, si c'est une petite lettre en papier recyclé pour le voisin de la rue d'à côté, eh ben, c'est mieux. Donc voilà, moi, je dis un point pour chacun.
Julia répond jamais aux mails ni aux lettres, donc au moins,
elle pollue pas.
C'est pour pas polluer, Mélanie. Ça n'a rien de personnel.
Je comprends mieux, d'accord. Attention, question numéro 3. On en est où des points? Un partout. Mélanie, Gavin, vous êtes en tête, Julia est en retard. Question numéro 3, Julia. Ça va être vous allez vous refaire. En France, l'obsolescence programmée est-elle un délit passible de prison?
Oh bah non, faut pas exagérer quand même.
Je dirais oui.
Bah moi je dis oui pour pas faire comme Mélanie pour avoir un point.
Eh ben bravo. L'obsolescence programmée, ouais.
C'est une fois que vous me gagnez sur quelque chose.
Et voilà. Passible de 2 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Donc le problème c'est que cette obsolescence, elle est pas facile à prouver. Donc il y a une nouvelle loi qui a été mise en place pour assouplir un petit peu la définition et que ce soit plus simple pour condamner cette fois réellement les fabricants qui jouent pas le jeu.
Alors justement. pour lutter à notre échelle, on peut repérer l'indice de réparabilité sur nos appareils. Ouais. C'est bien ça qu'on
en a déjà On en a déjà parlé. C'est un indice qui va de 1 à 10 et qu'on peut trouver aujourd'hui sur les smartphones, les télés ou les lave-linges. Donc, on regarde bien sur le descriptif de l'appareil. Et plus il est élevé, cet indice de réparabilité, évidemment, plus la durée de vie de l'appareil est grande.
Allez, question 4.
Question 4. Quelle part de la nourriture mondiale est gâchée ou jetée? Trois propositions. Réponse A, 1/10 de la nourriture produite, 1/5 ou 1/4
de la
nourriture.
Moi, je suis sûre que c'est 1/4. Vous avez dit quoi, Julia, vous? 1/4? Non, moi, je dirais 1/5.
Moins. 1/5, bravo. Et oui, c'est l'ONU qui a établi ce chiffre.
Bah, moi, je déteste perdre.
Et si on les mettait bout à bout, c'est une enfilade d'énormes camions qui ferait 7 fois le tour de la Terre. C'est 1 milliard de tonnes de nourriture qui est gâchée. Et nous, les particuliers, eh bien, on en gâche un petit peu plus que les restaurants. Il y a quand même des solutions, des applis anti-gaspi. Moi, je vous recommande Phoenix, qui vous met en relation avec des associations pour éviter le gaspillage. Et grâce à elle, on évite 125 000 repas gâchés par jour.
Alors après le gaspillage alimentaire, votre prochaine question, Perrine, porte sur le thermomètre, un facteur décisif dans le changement climatique.
Peut-être que vous allez vous en souvenir. Quelle est la température la plus élevée jamais enregistrée en France? Je vous propose 38 degrés, 43 degrés ou 46 degrés?
46.
Ouais, moi aussi je dis
43.
46.
Ah. Bravo les filles, 46 degrés.
Bravo.
C'était à l'été 2019 à Vérargues dans l'Hérault. Et cette année, on a eu une grosse, grosse vague de chaleur, notamment au mois de mai. Le mois de mai qui était pressenti pour être le plus chaud de l'année.
Alors, on va regarder un peu des choses un peu moins anxiogènes.
Oui, parce que c'est un peu anxiogène, mais en même temps, ça s'amuse bien quand même.
Il y a une question qui va être plus sympa, Perrine, je crois.
Quel est le principal poumon de la planète? Est-ce que c'est l'océan, petit B, la montagne, ou petit C, la forêt?
La forêt, moi aussi, je dis.
Gavin?
Allez, l'océan.
Réponse A, Gavins, bravo, l'océan. Oui, c'est grâce au plancton.
Vous en avez gagné une au moins, Gavins.
C'est grâce au plancton qui rejette de l'oxygène et qui absorbe du CO2. La forêt, c'est le deuxième producteur d'oxygène. Bravo.
Si alors, on fait les comptes.
On est quatre bonnes réponses chacun.
Bravo.
Oh là là, c'est nul. Bon. C'est comme à l'école des fans. Tout le monde a gagné. Bravo.
La vraie équipe, quoi.
Ouais, génial. Bravo. Mais en fait, pas de gagnant,
c'est moi qui ai gagné.
Non, je crois pas, Mélanie, vous avez triché. Merci, Perrine. Merci. On peut parler d'écologie de façon ludique avec vous. C'est très agréable. On va passer maintenant à l'évasion du jour avec vous, Gavins. Vous êtes notre chroniqueur voyage et vous êtes rédacteur au guide du Routard. Alors le tourisme, on le sait, ça repart à fond et c'est pas facile d'avoir des billets d'avion en ce moment. Les papiers d'identité sont durs à refaire. Alors vous avez peut-être décidé de rester en France, ça tombe bien. Gavins, vous nous proposez un city trip à Bordeaux.
Ouais, c'est ça. Quelques jours pour partir, pour se reposer dans cette ville au bord de la Garonne. C'est vraiment l'idéal. Il y a le tram, il y a plein de vélos. On peut prendre son vélo en arrivant. Il y a le bus, vraiment. Quand on arrive dans cette ville, la première sensation, c'est le calme. Il n'y a pas beaucoup de bruit, c'est très agréable, ça fait du bien.
C'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut voir à Bordeaux alors? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas manquer?
Eh bien, depuis 2013, il y a la Cité du Vin à Bordeaux.
Ah, bah oui,
vin,
voilà.
Quand même. C'est un bâtiment assez futuriste, on dirait. Il reproduit le mouvement du vin dans le verre. C'est assez étrange, hein. C'est vraiment très beau. On le voit de loin.
Une sorte de tourbillon,
exactement.
C'est ça?
Exactement. Ouais. Il y a du verre autour et c'est vraiment très, très beau. On peut visiter, on met son nœud de guide, on met son casque et on apprend plein de choses sur le vin et on peut à la fin déguster aussi. Avec modération, bien entendu.
Évidemment, et une vue splendide donc sur la ville. Mais il n'y a pas que le vin quand même à Bordeaux, j'espère.
Non, il y a le plus grand centre d'art digital au monde. C'est quoi? Ça s'appelle le Bassin des Lumières. C'est dans une ancienne base sous-marine nazie. C'est là où ils fabriquaient des sous-marins. Ils ont gardé les bassins et ils ont recréé ce grand centre avec des projections vidéo et sonores. Et vous êtes complètement immergé. Vous êtes dans le noir et vous êtes immergé dans les tableaux. Alors là, en ce moment, il y a une expo sur la Sérénissime, sur Venise. Donc plein d'artistes, plein de photos, etc. Surtout des peintures, c'est vraiment très beau. Et il y a le son, on est pris comme ça. Il y a aussi un artiste espagnol, Sorolla. Je vous conseille de vous mettre en haut des gradins et vous avez la vue rien que pour vous. C'est vraiment très beau. Les enfants adorent, les grands aussi. Et
je crois que les spectateurs de Roland-Garros aussi, hein, puisqu'on entend pas mal d'applaudissements. Je ne sais pas si c'est pour la ville de Bordeaux, je ne suis pas certaine. Je crois qu'il y a un quartier que vous avez particulièrement aimé. Hein.
Oui, le quartier de Bacalan. C'est le quartier de l'ancien port réhabilité. C'est là qu'il y a la cité du vin. C'est là qu'on voit aussi le fameux pont Chaban-Delmas.
Ah, oui.
Soulève le tablier central quand il y a les grands paquebots qui passent, c'est vraiment spectaculaire. C'est annoncé chaque jour. C'est là aussi où on peut aller manger au hall de Bacalan. On s'installe autour de gros d'anciens tonneaux. C'est vraiment très convivial, très familial. Dans le port, vous verrez, il y a une soucoupe volante.
Oh.
C'est une œuvre d'art. Ouais, c'est assez spectaculaire. Il y a aussi une péniche. Ça s'appelle La Dame. On fait des concerts, restos. Ça, on danse bien jusqu'au tard.
Un bar resto boîte, ça m'étonne pas de vous. Hein.
Ah, oui. Et à côté, il y a un hôtel qui est pas mal aussi, c'est l'hôtel Moxy. C'est la branche un peu cool de la Marriott. Et en fait, vous pouvez aller, on peut faire un Mikado géant, on peut faire, c'est assez rigolo, il y a un baby-foot et vous avez des rooftops, des chambres avec rooftop au sommet. Vraiment sympa. C'est entre 90 et 250 euros la nuit.
Bon, et le vieux centre-ville, est-ce que ça vaut le coup ou pas?
Ouais, c'est vraiment très beau. C'est là qu'on voit les anciens hôtels particuliers qui ont fait la renommée de la ville, hein, et c'est quand même enrichi autrefois avec le commerce des esclaves, on ne l'oublie pas. C'est là qu'on voit la cathédrale Saint-André, on voit à côté la tour Péberlan. Alors c'est étrange, c'est le clocher en fait de la cathédrale, et en fait elle est posée à côté de la cathédrale. Pourquoi? Parce que c'était marécageux, parce qu'il y a eu les sinistres du temps, les sinistres de la météo et les sinistres historiques, et donc elle est là quand même, 8 mètres d'épaisseur, c'est assez pour des murs, c'est assez costaud, et c'est vraiment très beau. C'est très apaisant en fait de se promener dans Bordeaux. On peut faire tout à pied, c'est vraiment une belle ville pour un petit week-end.
Vous êtes né là-bas ou quoi?
Non, alors j'y avais jamais mis les pieds jusqu'à très peu de temps, et en fait j'ai découvert et j'ai eu un vrai coup de cœur pour Bordeaux.
Je crois qu'il ne faut pas manquer non plus la porte Caillot, c'est comme ça?
Ah oui, la porte Caillot, oui. C'est l'un des vestiges de la ceinture médiévale, des remparts de la ville. François Ier est passé en dessous, moi aussi je suis passé en dessous, et vous aussi vous passerez en dessous quand vous irez là-bas. Et on peut monter à l'intérieur, les enfants adorent.
Ah génial, et un dernier coup de cœur peut-être?
Ouais, le musée d'histoire naturelle. C'est un petit musée, pas très grand, quelques étages, et là vous êtes accueillis par les chameaux, par des animaux naturalisés. Vous montez, je vous conseille de monter au dernier étage.
Vous dire chameau, c'est ça, chameau? Les gens applaudissent quand vous dites
oui, chameau. Bravo, des chameaux. Et en fait vous montez au dernier étage, et là il y a les portes qui s'ouvrent juste devant vous, c'est automatique, et vous arrivez dans une espèce de cabinet de curiosité géant avec des animaux qui vous surplombent. Il y en a plein les vitrines. Tirez les petits tiroirs sur les côtés, vous verrez, il y a plein de surprises. C'est vraiment très chouette. C'est le musée d'histoire naturelle de Bordeaux.
Avec les enfants
et pour les grands aussi, c'est très sympa.
Vous avez testé tout ça, vous, il y a
quelques
jours?
J'ai tout testé.
Et les enfants?
J'ai un peu trop testé. Bah, oui, les enfants ont adoré. Ouais, bien sûr, c'était super. C'est sympa parce qu'on peut goûter pas mal de très bons vins avec modération, bien sûr. Il y a plein de bons restos.
Et puis aussi, c'est très accessible en train, Bordeaux.
Si vous habitez la région parisienne, c'est 2 heures en train.
Ah, que 2 heures?
Ouais, 2 heures, c'est fou, c'est génial. Vraiment pour un petit week-end, voire plus, hein, si vous avez envie, pendant les vacances, si vous vous arrêtez, si vous voulez faire un petit stop, il y a plein d'endroits, il y a plein de...
Et puis les alentours de Bordeaux sont charmants. Vous avez le bassin d'Arcachon.
3 jours, c'est trop court pour Julia, elle veut s'élargir.
Bah oui, Cap Ferré, tout
bien
ça.
Bien sûr, on peut grimper là-haut, en haut de la dune. Et faire un petit pique-nique là-haut, pourquoi pas.
J'ai adoré faire ça et rouler après.
Et rouler, ça c'est pour les enfants. Pour les enfants, pour les grands, j'ai l'impression que Julia
est une grande enfant.
Vous n'avez jamais fait les...
Non, je n'ai jamais roulé, moi.
Et après, vous roulez dans le sable?
Et ouais.
Vous aviez quel âge pour...
L'année dernière, c'était sympa comme tout.
12 ans et demi, quoi.
Je vous imagine rouler, ça me plaît beaucoup. Merci beaucoup, Gaëtine.
Merci à vous.
Pour vos coups de cœur à Bordeaux. On vous retrouve demain aux côtés de William Lémergie dans Samedi en France. Voilà, cette émission touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. On sera bien entendu de retour dès lundi à 11h. Julia, on va s'intéresser à quoi la semaine prochaine, lundi bien sûr?
Exactement, et bien après la peau, on va s'intéresser lundi à nos cheveux. Que se passe-t-il quand on les perd un peu trop, voire beaucoup trop?
Et Gavin qui tique là, il dit pourquoi vous parlez des cheveux?
Je serais pas là, c'est un petit problème de cheveux.
Je me regarde un petit peu fixement.
Oh, c'est rien du tout.
On a aussi Olivier, notre technicien qui nous regarde avec intérêt.
Et c'est beau la calvitie, c'est beau. Est-ce que c'est inéluctable ou bien y a-t-il des choses à faire pour limiter ou carrément arrêter leur chute? Ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Alors on va faire le point lundi avec nos experts.